Des averses sur le massif central et sur les Alpes, quelques-unes aussi près de nos frontières du nord, beaucoup de nuages toujours jusqu'au centre. Et là où il devrait y avoir le plus de soleil demain après-midi, c'est en Bretagne.
Des maths, bonjour, Julien est à la technique et Yves Averti est au micro pour le numéro 421 de Bretagne Zone Heureuse, le magazine de l'Agence culturelle bretonne de Loire-Atlantique. À l'occasion des Nuits de la Lecture, la journée du 23 janvier est consacrée aux livres sur Alternante FM et c'est dans ce cadre que nous recevons aujourd'hui un auteur, Gilles Tenoux, qui vient de publier aux éditions des Montagnes Noires « Les ombres du Porouêtre », un livre étonnant avec une façon d'écrire qui correspond au thème 2021 des Nuits de la Lecture, relire le monde, c'est-à-dire réinventer le monde, rêver d'aventure, s'évader, voyager, découvrir d'autres horizons, tout en restant immobile. Grâce à la lecture et grâce à l'écriture, tout devient possible, comme de raconter la vie de ses ancêtres à la manière de beaucoup d'auteurs différents qui vivaient à la même époque que les ancêtres. Gilles Tenoux, bonjour.
Bonjour.
Alors Gilles, tu viens de publier « Les ombres du Porouêtre », donc aux éditions des Montagnes Noires. Que signifie ce titre qui pour moi était énigmatique, « Les ombres du Porouêtre » ?
Alors, je vais commencer par le Porouêtre. Le Porouêtre, c'est la région du centre-Bretagne. C'est une contraction du Poutrocouette, le Pagis Transsylvam, le pays à travers la forêt. Donc c'est le pays de la forêt et c'est une région qui, entre le 6e siècle et puis jusqu'il y a encore 50 ans, quand ma grand-mère vivait encore, eh ben, on parlait toujours du Porouêtre. C'est autour de Josselin, Ploermel, Loudéac, ça va même presque jusqu'à Gourin.
Ah oui, donc c'est donc un pays en presque transfrontalier, puisque ça traverse la frontière linguistique entre le breton et le gallo.
Tout à fait, tout à fait. Moi, mes grands-parents parlaient le gallo, mon père parlait le gallo, et je le comprends encore un petit peu. En tout cas, j'ai la musique de la langue, etc. Mais à 20 km de là, on parlait le breton. J'ai des tantes qui sont mariées avec des bretonnants. Et puis, et dans le ménage, ça parlait breton, gallo, ça mélangeait assez facilement. C'est à peu près la même musique au niveau de la langue. On a le même accent. On dit souvent que le Vannetais, c'est un breton différent du KLT. Et bien, le gallo du Porouêtre, enfin d'où sont originaires mes aïeux, c'est la même musique que le breton Vannetais.
Alors, qu'est-ce que c'est que ces ombres? C'est tout ce que tu viens de raconter? C'est les souvenirs?
C'est plus que ça. Les ombres, c'est... D'abord, ce livre, c'est parti d'une recherche généalogique. La généalogie en Bretagne, c'est une passion. C'est une passion bretonne. La généalogie, essayer de retrouver un peu d'où on vient, qui on est, qui nous sommes. Et j'ai commencé à faire un arbre généalogique. Et puis, rapidement, des dates de naissance, des dates de décès, des dates de mariage, c'était très insuffisant. Et j'ai voulu faire des portraits de ces personnes, de ces ombres. Et pour trouver ces ombres, eh bien, j'ai écrit des histoires sur chacun d'eux.
Alors, on va en parler au cours de cette émission. Moi, je vais faire ton portrait tout de suite. C'est assez simple. Je lis la quatrième de couverture du livre. Je n'invente pas. Il y a ton portrait tiré à grands traits. Tu es breton, linguiste, administrateur territorial, passionné de généalogie, tu viens de le dire, auteur et dessinateur. Tu fais aussi des dessins qu'on retrouve dans ton livre. Et ton troisième roman, Les ombres du Porouêtre, allie une réflexion sur la langue, la Bretagne et le récit. Tu partages ton temps entre Nantes, où tu chantes avec la chorale Conarvro, adhérente à l'Agence culturelle bretonne, c'est comme ça que tu es arrivé jusqu'ici, et Saint-Gilles-d'Aurevis, où tu as une maison dont tu parles d'ailleurs dans le livre. Et donc, voilà ton portrait. Mais ton portrait, il pourrait être aussi musical, car je t'ai demandé de choisir des musiques. Et la première, c'est Alan Stivell, Ian Morrison Reel. Thank you. Est-ce que je dois vous dire qu'on vient d'écouter Alan Stivell, Jan Morrison, Rill? C'était évident, et c'est évident, je pense, pour notre invité Gilles Tenoux aujourd'hui, d'avoir choisi Alan Stivell.
Ah ben, Alan Stivell, c'est mes premières émotions musicales bretonnes au début des années 70. Bon, ça commence à dater, hein, mais voilà, c'est formidable. Le concert à l'Olympia.
Tu y étais ?
J'étais au concert en 72 à l'Olympia.
Ah. Ah oui, tu fais partie des gens qui y étaient. Bon, tu n'étais pas très jeune à cette époque-là.
J'avais 15 ans.
Tu étais très jeune, je sais. Ah oui, 15 ans, ouais, d'accord.
J'avais 15 ans.
Bon, bah, tu y étais, je connais une autre personne qui y était aussi. Donc Gilles, en entrant dans ton livre, Les ombres du Porouet, on découvre un avant-propos du député Paul Molac. Alors c'est toi qui as fait la démarche pour lui demander ce texte ?
Tout à fait. Alors je ne connaissais pas Paul Molac, hormis que j'avais lu qu'à l'Assemblée nationale, il avait de temps en temps, il cause en breton ou en gallo. Il maîtrise les deux langues. Il n'a pas le droit de le faire, donc à chaque fois, il prend une amende. Mais je trouve que ce côté un peu rebelle. Et puis en même temps, il est député du coin
autour de Pleurmel.
Voilà. Mais je le connaissais pas. Donc je lui ai écrit. Je lui ai envoyé mes textes en disant, voilà, j'ai écrit quelque chose sur le Porouet. Est-ce que ça vous seriez d'accord pour écrire une préface ? Alors, sur le coup, il m'a dit, je ne sais pas si je vais pouvoir, mais pourquoi pas, je vais essayer. Et puis, il m'a écrit un très beau texte. Et on a échangé ensuite. Et pour la première fois, je l'ai rencontré à Josselin le 19 décembre dernier.
Ah oui,
donc voilà, il m'avait écrit ça il y a un an et demi de cela, mais on ne se connaissait pas plus que cela. On avait échangé par mail, c'est tellement facile maintenant.
Alors je vais dire une petite phrase de son texte. « En mettant sa sensibilité pour les habitants et le Porouet en général à disposition de tous par ce livre passionnant, c'est aussi un témoignage de notre histoire commune. » Donc je suis quelqu'un qui lit ça, que ça se passe dans sa circonscription, je crois qu'il est très content. Parce que alors, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Les ombres du Porouet, c'est un livre très original. Ce sont des portraits, à la manière des écrivains et écrivaines, de l'époque où vivaient ces personnes. Et ces personnes sont une famille du centre-Bretagne, des années 1550 à 2000. Donc tu as dit que tu étais passionné de généalogie, tu as découvert tes racines, enfin, tous tes ancêtres, on va dire, et tous les gens autour, tu retrouves les mots, tu racontes dans ton livre, tu mets quelques extraits de textes de l'époque, et c'est toujours, toujours, toujours très émouvant, les naissances hors mariage, on va dire, tout ce qu'on retrouve dans ces documents, qui sont des documents paroissiaux à l'époque.
Complètement.
Ouais. Et donc, tu t'es dit, qu'est-ce que je vais en faire ? Et tu as décidé de parler de tes ancêtres, qui sont toi, nous sommes tous nos ancêtres, mais on ne les connaît pas, et tu as décidé de les raconter, mais ça veut dire que tu t'es imprégné de l'époque, et d'une façon très particulière, parce que tu as écrit à la manière d'écrivains ou d'écrivaines de l'époque. Moi, je pense que personne n'a publié jusqu'à ce jour un livre avec plus de ces 90 portraits, écrits donc de 90 façons différentes. Tu as mis combien de temps à le faire ?
J'ai mis 7 ans. C'est 7 ans de travail. Alors, je suis un passionné de la langue. Ça, tu l'as compris.
Oui, je crois avoir compris. Te recevoir le jour du livre, toi, tu dois lire beaucoup de livres. C'est ton troisième livre maintenant. Et tu adores écrire et lire.
Alors, j'adore lire, écrire. J'aime bien causer aussi. Hein. Mais je, passionné de langue, je voulais retrouver la musique de la langue de mes aïeux. Pour retrouver la musique de la langue, il aurait fallu que j'écrive en gallo. J'en suis pas vraiment capable. Puis personne n'aurait lu, ou trop peu de monde aurait lu, et ça aurait été difficile pour un éditeur. Et donc je me suis dit, je vais écrire à la manière dont on parlait ou on écrivait à l'époque. Et pour cela, j'ai choisi des auteurs. J'ai choisi des auteurs que j'aimais. Des auteurs que j'aimais, et puis il y en a quand même quelques-uns que j'ai découverts. J'ai quand même découvert quelques auteurs étonnants. Il y en a un, notamment Béroald de Virville, début XVIIe siècle. C'est d'une drôlerie, c'est sympa, c'est rigolo, c'est amusant. Mais Voilà, donc c'était
alors,
la
je vais
langue.
Donner les noms, parce qu'en fait, donc, tu as eu la bonne idée de commencer par toi, dans les portraits de ta famille.
Ça, c'est pour bien. Faciliter la vie au lecteur.
Donc, c'est Boris Vian qui écrit sur toi, tout simplement. Donc, c'est parfait. Ensuite, tu t'es dit, je m'appelle Gilles Tenoux, mais c'est le nom de mon père, mais je pourrais m'appeler Gilles Bochet, c'est le nom de ma mère. Donc, le portrait de Gilles Bochet, c'est à la manière de Pierre Michon. Et puis, donc, on va remonter dans le temps, après, même avec les écrivains, Marguerite Duras, Claude Simon, Georges Perec, Julien Gracq, René Char, Céline, Raymond Queneau, Albert Camus, donc je vais très vite, hein, j'en passe plein, Jean-Jacques Rousseau, Marivaux, l'abbé Prévost, donc aussi Bonaventure Desperriers, alors je veux dire que je ne le connaissais pas, et ça finit par Rabelais. Donc, tu remontes le temps, non seulement pour retrouver tes aïeux, mais aussi en littérature.
Complètement. Ce livre, c'est presque aussi, à la finale, parce que ce n'était pas le projet initial, c'est devenu une anthologie de littérature, une anthologie de style. Parce que dans les textes, il y a des récits, il y a parfois quelques poésies, il y a des fables, il y a des contes, il y a des romans libertins, une lettre, des pensées. Parce que les auteurs s'expriment de manière très différente. Vraiment, ce que j'ai voulu, c'était faire connaître ce pays du Port-Ouest, parce que là, j'ai une homogénéité de lieux. Toute ma famille, tous mes aïeux viennent de ce pays du Port-Ouest, du centre-Bretagne, et autour de la forêt de la Nouée. La forêt est un thème toujours présent.
Et donc, toujours présent, c'est les langues. Tu as bien dit que tu avais le galop dans la tête,
dans l'oreille.
Dans l'oreille. Et tu as aussi peut-être un peu de breton. Et tu as choisi qu'on écoute quelqu'un qui est du centre-Bretagne, qui malheureusement est disparu il n'y a pas très longtemps. Et c'est Jan de Fanche Kemener. Kemener Skiban, mais on n'a entendu que Kemener, c'est l'indice de Kemener Skiban. Et le morceau, c'est un pache-pie qu'on connaît très bien. Beaucoup de gens ont dansé sur cette chanson. Et donc, choisi par notre invité aujourd'hui, notre invité qui a écrit un livre en prenant plusieurs personnalités. Donc, c'est Gilles Tenoux qui a publié Les Ombres du Port-Ouest. Et je t'ai demandé de choisir un endroit de ton livre que tu aurais envie de lire. Évidemment, on est remonté très loin. Tu parles de Julienne Guillemot, qui est née le 2 avril 1581 à La Nouée, qui a été mariée avec Julien Rau. Ça veut dire que tu n'as pas trouvé quand elle est morte ?
Non.
Bon, voilà. Mais c'est très bien, elle est peut-être toujours vivante, en fait. Elle est redevenue déjà vivante par toi. Et donc, c'est à la manière de Marguerite de Navarre. Alors, voilà. Ça donne quoi ?
Voilà, c'est un des premiers textes que j'ai écrit. Au bourg de la Nouée, entre Pierremeux et Loudia, il y avait une jeune fille de 15 ans, nommée Julienne Guillemot, qui vivait chez ses pères et mères, et qui le jour faisait passer un chacun au travers la grande forêt qui couvre tout le pays du Port-Ouest. Advint que deux cordeliers du Divan, pour se rendre à Saint-Malo, passèrent la forêt qui obstruit les passages tout seul avec elle. Et pour ce que le passage est un des plus curieux qui soit en Bretagne, pour la garder d'ennuyer, vinrent à lui la prier d'amour. À quoi elle leur fit réponse qu'elle devait. Mais eux qui, pour le travail de chemin, étaient lassés, ni aussi pour le refus de la femme honteux, se délibèrent tous deux, la prendre par force, ou, si elle se plaignait, la jeter dans l'eau de l'étang des Saint-Chemins. Julienne, aussi sage et fine qu'ils étaient fous et malicieux, les promena par les sentiers qu'ils en oublièrent le nord et le sud, leur dit « Je ne suis pas si malgracieuse que j'ai fait le semblant, mais je vous veux prier de m'octroyer deux choses. et puis vous connaîtrez que j'ai meilleure envie de vous obéir que vous n'avez de me prier. » Les cordeliers lui jurèrent par le saint cordon de Saint-Meleux qu'elle ne leur serait demandée qu'ils n'octroyassent pour avoir ce qu'ils désiraient d'elle. « Je vous requiers premièrement, dit-elle, que vous me jurez et promettez que jamais à homme vivant, nul de vous ne déclarera notre affaire. » Ce qu'ils lui promirent très volontiers. Et aussi elle leur dit « Que l'un après l'autre veuille prendre son plaisir de moi, car j'aurais trop de honte que tous deux me vissent ensemble. Regardez lequel me voudra avoir le premier. » Ils trouvèrent sa requête très juste et accorda le jeune que le plus vieux commencerait. Et en approchant d'une boissière où un chêne se dressait là, elle dit au jeune « Beau-père, dites-là vos oraisons jusqu'à ce que j'aie mené votre compagnon devant un autre chêne. » Le jeune grimpa sur l'arbre, attendant le retour de son compagnon, lequel Julienne mena en une autre boissière. Et quand ils furent auprès d'un biaou châtaignier, feignant de se détacher le cotillon, elle dit au cordelier de grimper vite dans les branches où une cabane avec un lit de fougère l'attendait. Le beau-père grimpa sur l'arbre pour chercher l'endroit qui lui serait plus à propos, mais sitôt qu'elle le vit en haut, elle se retira avec par les chemins et celle connue, laissant ses deux bons pères au désert, auquel elle cria tant qu'elle put : Attendez, messieurs, que l'ange de Dieu vous vienne consoler, car de moi n'aurez aujourd'hui chose qui vous puisse plaire, et si vous prendre, vous enfuir et de vous égarer, les loups sauront vous dévorer.
Eh, super, hein. On croit que c'est de l'époque et c'est vrai, quoi. Toi, tu as complètement inventé, mais tu t'es imprégné de beaucoup d'histoires que tu avais lues, j'ai fait dire histoire.
Oui, eh bien, faut voir que la forêt était un lieu mystérieux, un lieu difficile, notamment pour les jeunes filles. Il y avait souvent des viols en forêt, il y avait souvent des jeunes femmes abusées. Je veux dire, c'était vraiment, la forêt était un endroit, il n'y avait pas que les loups. Et donc, c'est pour ça que traverser toute la forêt du centre Bretagne était une expédition aussi pour quelqu'un qui ne connaissait pas. Donc, ils étaient obligés d'avoir des guides. Et donc, j'ai inventé cette histoire en me disant, tiens, le guide, ça va être une jeune femme, ils vont vouloir l'abuser, et puis elle va les prendre. Alors, ça ressemble un peu à une histoire aussi de chez Marguerite de Navarre, mais ça ne se passe pas au même endroit, ça se passe pas... Et la blague est d'une autre manière. Mais il y a une blague un peu dans le même genre.
Alors, tu viens de parler de forêt, et maintenant, on va entendre parler de la mer avec une chanson, Borders of Salt. Donc, les frontières de sel, c'est donc les frontières de tous les pays celtiques. C'est ce que chante Dalar Braz. Enfin, c'est pas lui qui chante, mais c'est lui qui a écrit la chanson. Et donc, c'est aussi parce que tu es imprégné de la musique de Dalar Braz. On l'a entendu avec sa guitare au début de l'émission avec Alan Stivell. Et ce disque, l'héritage des Celtes, qui est le premier, c'est pour toi aussi fondateur d'un renouveau de la musique bretonne.
Ah, tout à fait. Enfin, je veux dire, toutes les musiques que j'ai choisies. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé de Jan Fransch Kemener, mais c'est quelqu'un que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai parlé et qui avait une voix tellement merveilleuse. Dalar Braz, c'est une guitare. Alors, comme je joue de la guitare et que je chante,
je suis un peu passionné des deux. Je comprends tout. Donc, Dalar Braz, Borders of Salt.
Land of the seas, green land of mine, borders of sand, borders of sand, riddled with dreams, green land of ours, days of misfortune and days of doubt are gone with the tide, and days of hope to settle down will come, wash out the blue. It's all.
le premier titre du premier album « L'héritage des Celtes, Borders of Salt » de Dan Arbraz. Dans quelques instants, cette émission va se terminer, mais ce n'est qu'un début, puisque vous allez pouvoir lire ce livre. Vous avez compris que je vous conseille de découvrir « Les ombres du Porouette » de Gilles Tenoux. Alors Gilles, tu nous as dit un extrait, on va en dire un autre pour montrer qu'on est vraiment dans plusieurs époques, et c'est le portrait de Félicie Bellamy à la manière de Georges Perec. Et je dois dire que Georges Perec est présenté dans la page d'avant, parce qu'à chaque fois, entre chaque texte, tu présentes celui qui va venir en disant pourquoi cet écrivain-là, c'est vraiment un écrivain, un poète, qui va parler de ton ancêtre. Et cette personne, c'est Félicie Bellamy, qui est née le 24 novembre 1898, qui a été mariée avec Eugène Tenoux, qui était ton grand-père, si je ne me trompe pas, voilà. Et le 26 octobre 1925, à Lanoué, elle est décédée à Rennes. Le 14 septembre 1999, elle est inhumée aussi à Lanoué. Et donc, c'est Georges Perec qui parle d'elle.
Je me souviens quand on arrivait à Rennes et qu'on criait « Mes mères de Rennes !» en entrant dans ta maison. Je me souviens du péché où nous faisions de la balançoire dans le jardin et que tout s'était écroulé sur Christine, ma cousine. Je me souviens comme tu ronflais fort quand on dormait avec toi. Je me souviens de la baraque en bois, blottie dans le jardin, et tout au fond, les clapiers où on donnait à manger aux lapins. Je me souviens des coloquintes dans ta coupe de fruits. Je ne savais pas si ça se mangeait. Je me souviens du noisetier où, en septembre, avant de rentrer à Paris, nous cueillions des noisettes que nous mangerions tout l'automne. Je me souviens des escapades dans la prairie à tirer Hervé, puis Alain dans la carriole. Je me souviens quand tu mettais ta minuscule coiffe et tes chaussures tressées pour aller à la messe le dimanche.
Merci Gilles d'avoir donné un extrait, qui évidemment c'est une facilité de dire je me souviens, mais tu peux pas te souvenir de tous les gens de tes ancêtres depuis l'époque d'Anne de Bretagne, parce que le premier, monsieur Tenoux, premier Alain Tenoux que tu as trouvé, eh bien c'est de cette époque-là, donc c'est très lointain, et tu l'as vraiment trouvé, tu as trouvé dans des archives Alain Tenoux, donc de l'époque d'Anne de Bretagne.
Tout à fait, j'ai voulu vraiment commencer autour de 1532. Alors c'est 1550, mais 1532-1550, ça se touche.
C'est pas loin.
Voilà, et donc de 1550 à 2000, comme ça, il y a 90 portraits et 90 auteurs.
Merci beaucoup Gilles. Donc le livre s'appelle « Les ombres du Porouette ». Il est édité par les éditions des Montagnes Noires et on le trouve chez les marchands de livres.
Les libraires.
Voilà, les libraires, ils s'appellent les libraires. Et on se quitte avec une musique sacrée, « Sacred Music from Brittany », c'est écrit en anglais dessus, « Spered Santel Doué ». Et donc c'est un morceau où on retrouve des musiciens et une voix, celle d'Anne Offret.
Presque la voix de ma grand-mère maternelle.
Eh bien, à bientôt, Kenavo.
Kenavo, Trugavé.